Africa numéro 1, le grand débat, Francis Alupo.
Dans le grand débat aujourd'hui, radioscopie du nouveau gouvernement camerounais. 3 mois après la réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat, le dirigeant camerounais a nommé le 4 janvier dernier un nouveau premier ministre en la personne de Joseph Dion Nguté. Au lendemain de la mise en place d'un gouvernement issu d'un remaniement, que peuvent attendre les Camerounais de ce nouvel exécutif? De quels ressorts dispose ce gouvernement pour faire face aux nombreux défis que les précédents n'ont pas su relever? Et en quoi un nouveau mandat de Paul Biya pourrait-il apporter les réponses aux attentes récurrentes des Camerounais? Réponse à ces questions et à bien d'autres avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. Et l'émission réalisée par Hélène Bizio de retour.
Africa numéro 1, le Grand Débat.
Vous pouvez également le grand débat sur facebook.com/legranddébat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Merci de leur fidélité. Une mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Berlin, à Cotonou, à Washington DC, à Montréal, à Cotonou, à Douala ou encore à Édimbourg. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook qui sont très nombreux. On va en citer juste quelques-uns. Nos excuses aux autres, évidemment. On aura peut-être l'occasion d'y revenir demain pour les autres. Abdrahman Toumeya Diara nous a rejoint. Yekitan Akapo également. Fadel Ekan, Guillaume Miongo, Alphonse Lucas Als, Diallo Diallo Abou Oumar. Ce sont nos Ibra Diakité. N.S. Rien Amer, pardon, voilà, je suis arrivé. Et Douté Dominique. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/legranddébat et bien sûr toujours et encore une pensée forte à nos amis de Bujumbura au Burundi.
Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le Grand Débat sur Africa numéro 1.
Le gouvernement remanié au Cameroun au début du nouveau mandat de 7 ans pour le président Paul Biya est un gouvernement qui semble s'inscrire dans la continuité du régime aux commandes de l'État camerounais depuis 37 ans. Radioscopie de ce nouveau gouvernement avec nos invités. Paul-Éric Emery est avec nous, bonsoir.
Bonsoir Francis Alupo, permettez-moi de vous renouveler donc mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, ainsi qu'à l'ensemble de vos auditeurs qui nous écoutent.
Le meilleur vœu également, Paul-Éric Emery, nos auditeurs auront apprécié, bien entendu. Vous êtes chargé de la communication de la section France du RDPC, c'est le Rassemblement du Peuple Camerounais. Rassemblement démocratique, c'est important, du Peuple Camerounais, parti présidentiel évidemment, le parti au pouvoir au Cameroun. Joël Didier Ngo est avec nous, bonsoir Joël Didier.
Bonjour Francis.
Vous êtes président du comité de libération des prisonniers politiques, le CL2P,
c'est cela. C'est ça.
Merci d'être avec nous. Alors, Paul-Éric Emery, parlons donc, on va parler de ce nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre donc nommé, Joseph Dion Nguté, qui a été précédemment ministre délégué aux affaires étrangères en charge des relations avec le Commonwealth, poste qu'il a occupé pendant 21 ans quand même, hein, donc voilà, c'est un vétéran, je dirais, du système. Alors, on souligne abondamment le fait que ce nouveau Premier ministre est originaire du Sud-Ouest, l'une des régions anglophones en proie, on le sait, à une crise sécuritaire majeure depuis 2 ans. Est-ce que cette nomination est un message politique dans ce contexte de crise?
Mais par définition, Monsieur Lalupo, tout ce qui se fait au niveau d'un gouvernement est politique par essence.
Oui, mais quel est le message particulier du fait d'avoir nommé un Premier ministre dont on souligne abondamment qu'il est originaire du Sud-Ouest?
Oui, donc déjà... en première analyse, on va dire que ce gouvernement était attendu à la suite des élections présidentielles du 7 octobre. Oui. Je crois que c'est quelque chose de classique qui arrive après chaque élection. Pour ma part, ce gouvernement est un gouvernement de transition. Je vais dire pourquoi c'est un gouvernement de transition. Il ne vous a pas échappé que au mois de septembre-octobre de cette année 2019,
il y a des législatives,
il y a des législatives
et des municipales.
Et des municipales. Donc ce gouvernement que beaucoup critiquent plus ou moins est un gouvernement de transition.
Beaucoup critiquent. Vous entendez beaucoup de critiques, vos oreilles sifflent.
Oui, effectivement, puisque les gens disent qu'il n'y a pas de nouveautés, etc.
C'est un jeu de chaises
musicales. Ça correspond à un gouvernement de transition.
Remanié.
Voilà,
c'est pas vraiment un nouveau gouvernement, disons.
On va y aller. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce qu'on attend les législatives d'abord avant de. Ça fait beaucoup
donc
de suspense.
Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Soit on restait comme ça jusqu'aux législatives.
Pourquoi
je crois
pas?
Que beaucoup auraient craqué.
Pourquoi pas?
Et je pense que le président a entendu le peuple qui souhaitait qu'il y ait quelque chose.
Le président a entendu le peuple.
Donc voilà, le président a répondu. Et donc là, nous avons un gouvernement de transition qui va faire son travail. jusqu'à aux législatives, aux municipales.
Bon, Paul Eric, évidemment, je vous taquine un peu parce qu'on vous connaît bien dans cette émission, bien entendu. Donc, je connais un peu votre rhétorique. C'est pour ça que je devance de temps en temps vos chutes hein, de propos. Même question pour Joël Didier Ngo, avant d'aller un peu plus loin dans ce nouveau gouvernement. Beaucoup ont souligné le fait que le nouveau Premier ministre,
John Goutté,
est originaire du Sud-Ouest, donc l'une des deux régions anglophone en crise actuellement. Est-ce qu'il faut beaucoup insister sur cette question-là ou pas? Ou alors c'est secondaire?
C'est presque secondaire parce que, bon, je salue déjà Paul Emery et je lui souhaite une bonne année.
Merci.
Ce qui est à dire et ce qu'on peut dire et même de louable, c'est de saluer déjà le mérite de Paul Biya 36 ans après de créer un semblant d'événement sur un non-événement.
Oui, c'est ça.
Donc, la
preuve, nous en parlons ici.
Preuve, c'est qu'on en parle encore 36 ans après. Donc, John Goutté, c'était attendu que ce soit en tout cas un anglophone. Au poste de premier ministre ces derniers temps a été occupé par un anglophone. Mais la singularité avec lui, c'est que son domicile a été incendié la veille de sa nomination à la primature, ce qui en rajoute aussi quelque chose. Peut-être le président a voulu signifier à ce qui se passe en zone anglophone, a voulu envoyer un message, je ne sais pas lequel, mais c'est quand même assez singulier qu'un monsieur qui était ministre depuis presque 21 ans,
il était ministre en charge des relations
et il a même été, pour tout vous dire, dans l'une des délégations qui est allée en Afrique du Sud lorsqu'on essayait de faire un débat avec la diaspora sur la question anglophone. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un du sérail, donc il n'apporte aucune nouveauté en tant que tel. Et lorsque j'admire l'optimisme forcené de Paul Emery, lorsqu'il nous dit qu'il y a de la nouveauté, mais il n'y a pas de nouveauté. Nous sommes dans un mauvais jeu de chaises musicales où en plus vous avez des faucons qui ont gravi en échelon parce que vous avez deux ministres d'État, dont le secrétaire général à la présidence qui est devenu ministre d'État et un autre qui est Jacques Femme Dongodon, vous savez, qui est l'ancien ministre de la communication, qui est l'un des faucons vous permettez, monsieur,
de l'enseignement supérieur.
Il était anciennement ministre de la communication. Et secrétaire à la communication du RDPC, parti État de Paul Biya. C'était la confusion.
Le parti, tout simplement.
Vous avez là, en fait, une expression d'un régime qui se raidit à nouveau et qui, au lieu d'aller vers le débat, parce que nous appelons tous un débat sur la question anglophone au moins, prime ou promeut les faucons des faucons, ceux qui ne veulent pas du débat. Et nous allons en parler, mais nous sommes dans un raidissement dans tous les sens du terme.
Oui. Alors, bon, là, c'est une équipe d'une vingtaine de ministres, sur les 65 postes que compte le cabinet de l'exécutif. Très peu de nouveaux entrants, vous l'avez dit, 5 tout au plus. Et la plupart des ministres étaient déjà dans le président du gouvernement. Donc, ce sont les portefeuilles qui ont changé. Comme disait Joël Didier Ngo, c'est un jeu de chaises musicales. On ne peut pas parler vraiment donc au gouvernement renouvelé Paul-Éric Emery. Voilà, ce qu'on entend quand même beaucoup depuis quelques jours au Cameroun, c'est qu'on prend les mêmes pour continuer. Quoi.
Mais non, vous ne m'avez pas bien écouté.
Je vous dis ce qui se dit, les commentaires qu'on entend, c'est là, y compris sur les chaînes de télévision nationales. Voilà, ce sont les mêmes finalement, on prend les mêmes et on continue. Quoi.
Au début de mon propos, je vous ai dit que c'était un gouvernement de transition.
Mais ça n'a pas été énoncé comme tel.
Même.
Ça, c'est vous qui le dites.
Quand
dit,
on fait un tout petit peu d'analyse, on comprend rapidement que c'est un gouvernement de transition.
Le but, comme disait Ngo, c'était de créer un événement. Sauf que là, évidemment, ça tombe un peu à plat parce que, bon, on cherche l'événement.
Je vais vous expliquer. Je vais donner les déterminants. À savoir qu'après l'élection présidentielle, il y avait une attente forte de la population.
De la part de qui?
De la population de voir un nouveau gouvernement en place. Simplement. L'actualité politique fait en sorte qu'il y a eu une inversion.
Non, mais attendez, juste un instant. Avant de continuer, Joël Didier Ngo, est-ce qu'il y avait une attente aussi forte de la part de la population d'un nouveau gouvernement?
Je n'ai pas senti aussi fort que peut-être je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais bon.
Non, une attente forte, généralement, d'une population, ça s'entend.
D'une population, ça s'entend.
Oui.
Donc, dans le cas présent, j'ai plutôt...
Laissez-moi
vous permettez que je fasse quand même cet aparté. Oui. On a plus l'impression que c'est une forme de diversion. On enlève le débat où il doit être, on sort l'attention du public où il doit être. Vous savez très bien que l'actualité du Cameroun, c'était le hold-up électoral. Après, il y a eu le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya, ce mérite-là de savoir sortir le débat d'où il doit être et de galvaniser les foules sur un non-événement.
Et ça parce marche,
que...
puisque...
Et ça marche, puisque non, depuis le week-end, vous avez les fêtes dans les villages, dans les villas, et ça va durer comme ça pendant un mois, jusqu'aux motions de soutien au président de la République pour avoir nommé un fils du village, ainsi de suite. Donc, ce sera ça.
Frédéric Emery.
Je ne sais pas, moi, je n'ai pas une boule de cristal hein, pour parler comme M. Ngo, mais bon.
Non, donc, enfin, on a un peu l'habitude donc, quand même, depuis 37 ans.
Je reviens, je sais que vous m'entendez, je ne sais pas si vous me comprenez, je dis et je répète, nous sommes là dans un gouvernement de transition.
D'accord.
Dû à quoi ? Dû à une inversion du calendrier électoral.
Oui.
Lequel calendrier électoral a placé les élections législatives et municipales au mois de septembre.
D'accord.
Et vous savez, comme moi, qu'après ces élections municipales et législatives, une autre attente arrivera, celle d'avoir maintenant un gouvernement de travail.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
On peut attendre, quoi. On peut attendre.
On va attendre.
Et permettez-moi,
le ciel peut attendre aussi.
Au plan politique, le président nous a parlé de travailler maintenant au niveau des grandes opportunités. Je crois que ça vous a pas
été. Ça veut dire quoi, les grandes opportunités?
Oui. Vous savez qu'il faut toujours fixer un cap au plan de la politique.
Oui.
C'est qu'on a commencé par les grandes ambitions.
Oui.
On est arrivé aux grandes réalisations. La troisième étape,
c'est
les grandes opportunités. Voilà. Les grandes opportunités. Je pense que c'est très clair, ça. Je pense que c'est très clair. Voilà, tout simplement.
Donc, une manière de dire que, grosso modo, nous sommes dans un état dans un pays figé depuis 36 ans. Donc, c'est comme quand vous avez une automobile... Une vieille automobile qui ne sort plus et dont les pièces de rechange n'existent même plus dans le marché.
Et
donc,
vous
faites du bricolage avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ce sont des faucons. Des faucons qu'on manipule d'un ministère à un autre, d'un portefeuille à un autre.
Les Camerounais
n'attendent plus rien de ce gouvernement. Paul Emery, soyons honnêtes, les Camerounais n'attendent plus rien.
Ce n'est pas ce qu'il dit.
Oui, monsieur Ngo, les Camerounais apprécieront d'être comparés à une vieille voiture.
Non, il ne parle pas des Camerounais.
Non, je ne parle pas des Camerounais. Je dis.
Ou alors du Cameroun.
Non, je parle que la gouvernance actuelle donne l'impression d'être comme une vieille voiture. Qui ne sort plus et dont les pièces de rechange n'existent d'ailleurs plus.
Elle essaie de bricoler avec ce qu'elle a. C'est-à-dire que, voilà, on entend ce que vous dites. Vous êtes le représentant du RDPC, vous êtes très écouté parce que vous êtes quand même, je veux dire, très présent dans les médias. Vous portez la parole officielle en quelque sorte. Mais quand on vous entend dire des grandes phrases dont on a du mal à percevoir le sens, quand vous dites « nous sommes passés » des grandes opportunités,
non, des grandes ambitions,
aux grandes réalisations. On ne sait pas du tout ce que ça recouvre.
Grandes opportunités.
Non, mais ce sont des slogans.
Les Camerounais.
Ce sont des slogans. On ne sait pas ce que ça recouvre.
Nous sommes
partis des grandes ambitions. Quelles ambitions et vers les grandes réalisations? Lesquelles réalisations?
Les réalisations. Si on ne pouvait qu'en citer une.
Le
deuxième pont sur le Vouris aujourd'hui.
On a construit un pont.
En 36 ans.
D'accord.
Je pense que quand on part de zéro à quelque chose, c'est toujours un problème.
Ah. Alors, Joël Didier Ngo, je vais vous soumettre une anecdote dans le cadre, dans le contexte de la mise en place de ce gouvernement. Alors, parmi les rares nouveaux entrants, on a noté l'arrivée au poste de ministre de l'Habitat et du Développement Urbain de Madame Célestine Kecha-Courtès, qui est maire de Bangaté et surtout présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Réseau bien connu, le RFLA. Alors, voici ce qu'elle a déclaré au moment de son installation dans son nouveau ministère. Je la cite. Hein. Elle dit ceci. « Je dis merci à Dieu et à l'ange par qui Dieu passe, le Dieu des Camerounais, le président Paul Biya. » Fin de citation. C'était quand même des propos étonnants. Quoi.
Étonnant.
Voilà. Paul Biya est devenu le Dieu des Camerounais.
Rien ne nous surprend plus. C'est comme j'ai dit, c'est l'une des nouvelles créatures de Paul Biya, après Femme Nongo, qui s'est dit créature de Paul Biya. Vous avez là une autre créature. Dommage que la représentante du MRC ne soit pas là, parce que Madame Kecha s'est singularisée pendant la campagne en privant carrément M. Kamto de pouvoir faire campagne dans sa circonscription électorale.
Ah oui.
Donc, vous avez là des récompenses de ce type.
Ah
Madame
oui.
Kecha, bon, je salue le fait qu'elle est une mère très, très volontariste et franchement, elle est maire de Bangaté et tout le monde unanimement reconnaît qu'elle fait du bon travail comme maire. Mais simplement, elle a fait une telle obstruction au niveau même de l'expression de la démocratie et du vote des citoyens, qu'on se dit aujourd'hui, oui. puisqu'on ne récompense pas au Cameroun, c'est acté, qu'on ne récompense pas sur la compétence. On récompense sur des coups fourrés comme ça, où ça. Elle empêche un candidat d'aller faire campagne dans sa circonscription. Et j'ai d'ailleurs aussi souligné un autre fait que beaucoup n'ont pas souligné, c'est que Ségolène Royal est allée au Cameroun à un moment donné, et Madame Kecha a réussi la prouesse de faire arborer le pagne de Paul Biya à Ségolène Royal.
Ah oui.
Et de retour ici, Ségolène Royal a dit qu'elle a été piégée. Mais ça a quand même fait à ce que Madame Kecha soit vue comme celle qui fait venir une éminence de la politique française au Cameroun au moment où les grandes personnalités françaises n'osent plus y aller. Monsieur donc elle est récompensée en gros pour ça.
D'accord.
Elle peut remercier Dieu et Paul Biya qui sont confondus au Cameroun maintenant. Hein. Paul Biya et Dieu, ça fait une
donc elle est coutumière de. Est-ce qu'un ministre peut parler comme
non,
ça?
Non, mais je pense que vous nous avez invité ici pour faire des analyses.
Mais c'est intéressant d'analyser le contexte également. C'est-à-dire que nous parlons aussi d'une culture politique.
C'est là,
culture
nous sommes politique. Là oui. au niveau des anecdotes.
Non, c'est pas anecdotique. C'est quand même révélateur d'une culture politique.
Aujourd'hui, monsieur Momo, qui a soutenu la candidature. Président Paul Biya, dans le cadre des 20 qui sont venus soutenir
Monsieur
le
Momo, Jean de Dieu, vous voulez dire.
On en parlera aussi.
Voilà, Monsieur Momo, aujourd'hui.
Un des opposants qui a rejoint donc le camp.
Qui est aujourd'hui ministre.
Il n'est pas devenu ministre comme ça parce qu'il a quand même rejoint Paul Biya au second tour de la
présidentielle. Au niveau des analyses.
Juste à la veille de la présidentielle.
Donc, Monsieur Momo, aujourd'hui, avec le groupe des 20 qui ont soutenu la campagne du président Paul Biya aujourd'hui. Et ministre,
oui, alors
vous voyez que finalement, ça paye la politique finalement.
Alors.
Quand vous êtes averti par la matière.
Ah bon.
Donc voilà. Et là, je voudrais souligner ici l'habileté du président Paul Biya.
L'habileté.
Oui, tout ça, c'est une grande habileté.
Répondez à Joël Didier Ngo, sur quels critères finalement se fonde la nomination des ministres au Cameroun?
Mais vous savez, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du président. Peut-être que
si c'est encore le président. Et c'est encore le président.
Je ne sais pas, peut-être que vous avez des choses à nous révéler là-dessus.
Quand on lit la presse camerounaise de ce jour, on nous dit que c'est Chantal Biya qui a composé une partie du gouvernement.
Voilà, Madame Biya.
On est en face de ce que la Libération titrait le roi fainéant à perpétuité. Où vous remarquerez d'ailleurs que ceux qui sont promus, ce sont souvent des proches de Chantal Biya. Au palais de l'unité, c'est la même chose. Donc, soyons un peu sérieux. Lorsque Monsieur Momo, que je respecte, parce que Monsieur Momo est un avocat qui a été à la TPI à Arusha à un moment. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un passé comme défenseur des droits humains. C'est pas n'importe qui. Et qui, au Cameroun, a commencé vraiment à sensibiliser sur des drames humains.
Finalement, compétent ou pas compétent.
J'explique la trajectoire de M. Momo. Je ne remets pas en question sa compétence en tant que professionnel du droit.
Mais ce n'est pas de ça qu'on parle.
Il a fait ce qu'on appelle une allégeance alimentaire à Paul Biya.
Ah, alimentaire cette fois-ci.
Donc, je ne pense pas que ce soit Paul Biya qui ait récompensé Momo. Ce sont plutôt tout ce qui gravite autour de Paul Biya parce qu'il y a eu ceci. Qui est de singulier, et il n'est pas dans n'importe quel département ministériel. Mmh. Il est ministre délégué à la justice, exactement le portefeuille qu'occupait Maurice Kamto. Lorsque Maurice Kamto était au gouvernement.
Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a un phénomène Kamto au Cameroun actuellement, que ce régime essaye à tout prix d'abord d'étouffer.
Alors, pour les auditeurs, Maurice Kamto, c'est le professeur qui est arrivé.
C'est le principal challenger.
Il s'est déclaré vainqueur de l'émission.
Donc,
il va conclure.
Je vais compléter. Donc, il y a derrière le phénomène Momo l'envie de banaliser ce qui s'est passé avec ce que M. Kamto a considéré comme un hold-up électoral. Et pire encore, de ridiculiser
de l'humilier.
Parce que vous verrez que les nominations se font presque sur la base tribale, ethnique, régionale, parfois même villageoise. on confronte les têtes au sein même d'un même village. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer pour que les gens qui nous écoutent comprennent ce qui se passe au Cameroun.
Et certains appellent ça des équilibres régionaux.
On nous parle d'équilibre régional, mais en fait, c'est plus dans une confrontation.
Je vais profiter de votre antenne.
On va marquer une pause et vous allez pouvoir en profiter dans 2 minutes. On y revient. À tout de suite.
Le Grand Débat, 18h-19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Radioscopie du nouveau gouvernement camerounais, un nouveau gouvernement qui a été mis en place, plutôt un remaniement ministériel hein, qui a donné lieu donc à ce nouveau gouvernement. Paul-Éric Emery est avec nous pour en parler, chargé de la communication de la section France du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti présidentiel, parti au pouvoir au Cameroun. Joël Didier Ngo est avec nous, président du comité de libération des prisonniers politiques, le CL2P. Alors, vous vouliez donc, Paul-Éric Emery, intervenir, c'était juste avant la pause.
Donc, moi, je ne souhaite pas verser dans la caricature. Et comme nous sommes dans les analyses, je vais profiter de votre antenne pour saluer la nomination de mon camarade de classe, qui est aujourd'hui ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat,
oui.
M. Basili Ken III, qui était mon camarade de classe.
Ça, ce n'est pas anecdotique,
non,
ça.
Non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que M. Ngo disait déjà tout à l'heure qui tentait de diaboliser la première dame en disant que c'est elle qui a la main magique autour de ce gouvernement.
Non, pas du tout.
Quand on voit que j'ai un camarade, Basili Ken III, que je félicite encore aujourd'hui à travers votre antenne. Mais je ne vois pas quelle main magique.
Nous sommes là, mais je ne noircis personne.
À part la compétence. Permettez-moi, cette fois-ci, on disait beaucoup que le président Biya ne regardait pas la jeunesse. Et quand vous regardez aujourd'hui, M. Basili Ken III, il a moins de 50 ans aujourd'hui et il est ministre du gouvernement de Paul Biya.
Alors
Vous voyez le changement notoire de trajectoire. Parce que tout le monde disait
qu'il faut en conclure.
Vous voyez bien que des choses sont faites au niveau de ce gouvernement. Oui. Bien qu'il soit un gouvernement de
transition. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement peut apporter au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ce gouvernement peut rassurer les Camerounais qui s'inscrit dans la continuité au fond du précédent?
Vous savez.
On est dans la continuité là.
Il y a une continuité.
On est dans la continuité.
Bon, je vais dans votre sens.
Et le bilan n'était pas très brillant avant la présidentielle.
Attention, je ne sais pas de quel bilan vous parlez. Et j'ai l'habitude de le dire.
De quel ressort dispose ce gouvernement aujourd'hui pour opérer un sursaut et répondre aux attentes des Camerounais, les mêmes attentes qui s'expriment depuis des années, des décennies?
Quand vous êtes dans un gouvernement, le sursaut est permanent.
Ah bon? C'est un sursaut permanent.
Oui, regardez. Je ne veux pas commenter.
Sur la question sécuritaire, par exemple, qu'est-ce qui peut changer?
Sur la question sécuritaire, je pense que les dispositions sont prises dans notre pays pour que les Camerounais puissent vivre et vaquer tranquillement à leurs occupations.
Oui. Ça fait plusieurs mois que ces dispositions sont prises. En quoi, aujourd'hui, un nouveau gouvernement pourrait changer la donne?
Vous voulez parler de quoi? De la crise anglophone?
Oui, de la crise anglophone, par exemple.
Alors,
pointons les projecteurs sur la crise anglophone dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest.
Bien, s'agissant donc de cette crise, il me semble qu'on a déjà abordé ce sujet ici.
Plusieurs fois.
Maintes fois.
Oui.
Et je vais redire que un certain nombre d'outils ont été déployés sur le terrain en vue d'endiguer cette crise-là.
Oui.
Déjà, la commission pour le bilinguisme, déjà présidée par M. Mafani, originaire de cette même région du Sud-Ouest. La commission qui vient d'être mise en place pour le désarmement et puis pour la réinsertion. Il y a cette commission.
On en est loin.
Un ministère de la décentralisation a été mis sur pied.
Oui.
Le dialogue n'a jamais été rompu.
Avec qui vous dialoguez?
Justement, avec qui on va dialoguer? On va dialoguer avec les personnes de bonne foi.
Donc il n'y a pas de dialogue.
Vous dites
que le dialogue est en cours.
Laissez-moi
vous dire avec qui dialoguez-vous.
Parce que nous abordons là des questions.
Non, vous dites que le dialogue est en cours. Avec qui vous dialoguez? Alors, il n'y a pas de dialogue du tout.
Je vais donc vous dire.
Puisqu'on assiste à un conflit armé aujourd'hui dans ces régions
anglophones. Qu'est-ce que le président Paul Biya a dit récemment?
Non, ne citez
pas. La main est toujours tendue. Oui. Pour ceux qui veulent dialoguer.
Oui, ça fait avancer.
En même temps, on va avancer vers une fermeté pour ceux qui ne veulent pas déposer les armes.
C'est-à-dire une réponse armée, armée.
Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire une chose, c'est qu'il y a une offre sur la table aujourd'hui.
Quelle offre?
Qui est de dire que déposer les armes, venez et on va discuter.
Mais pour l'instant, vous n'êtes pas entendu.
Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas saisir cette main tendue. Évidemment, des dispositions seront prises.
Mais ceux-là aussi veulent aller jusqu'au bout. Ceux qui s'appellent les ambazoniers aujourd'hui veulent aller jusqu'au bout du conflit armé.
Et je puis aussi vous garantir que l'État du Cameroun ira aussi jusqu'au bout.
J'ai l'impression d'entendre des promesses électorales quand j'écoute Paul-Éric Emery, mais on n'est pas dans
concret. On parle de la réalité.
Je veux dire, Didier Ngo, en tant que Camerounais, qu'est-ce que les Camerounais peuvent attendre aujourd'hui de ce gouvernement?
C'est triste d'entendre...
C'est ce que dans la continuité.
Je peux comprendre qu'on défende un parti politique et même un président de la République. D'ailleurs, je redis là que je n'ai pas diabolisé Mme Biya ni noirci le régime. Je donne des faits. Donc, sur la question anglophone, ce qui est dur à entendre, c'est de faire de l'anecdotique sur des morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morts civiles qui se comptent par milliers, des déplacés notamment au Nigeria, sans compter ceux qui... Et donc, c'est la troisième fois ou deuxième fois que nous nous retrouvons sur ce plateau avec Paul Emery et que j'ai l'impression qu'il atténue ou donne l'impression qu'il n'y a pas de crise anglophone.
C'est vrai.
Elle s'est aggravée, vous lirez le dernier rapport de Crisis Crow, vous verrez comment les choses se sont aggravées. Pour dire simplement qu'on assiste à une sorte d'escalade ou de fuite en avant de quelqu'un, du président de la République, Paul Biya, qui ne veut en fait... en réalité, pas du dialogue. Parce que vous verrez que la dernière initiative portée par Mgr Toumi, par exemple, est carrément boycottée par le régime, par le gouvernement. Non, on le balade. Nous avons ici essayé de faire un débat avec nos amis anglophones, qu'on a d'ailleurs fait. On a constaté que ça n'intéresse en réalité pas, on avait d'ailleurs saisi l'ambassade du Cameroun, ça n'intéresse pas le régime. Le régime veut donner l'impression à la communauté internationale qu'il veut le débat, mais en fait, il fait tout pour faire à ce qui n'arrive pas. Et vous verrez Monsieur dans le Lalo. Dernier discours de fin d'année prononcé par Paul Biya lorsqu'il parle de liquider ceux qui ne voudront pas déposer les armes. Avez-vous déjà vu crise internationale, dans le règlement de crise internationale, vous n'avez jamais vu la création d'une commission de démobilisation avant même qu'on ait...
Est-ce que j'ai du mal à comprendre? Oui.
On ait amorcé un débat. Oui. Un débat, ça veut dire que vous allez même discuter, y compris avec ceux que vous vous êtes opposés ou que vous continuez à vous opposer. Vous avez vu ça
en
Colombie. Donc, au Cameroun, nous avons un régime qui joue avec le feu. Qui laisse la situation, qui laisse ce pourrissement en se disant, au bout de ça, au bout de la terreur, on aura peut-être fait partir une partie des gens qui habitent Boya, Babunda et dans les villages environnants et nous continuerons à faire comme avant.
C'est ça.
En fait, ils ne veulent pas du débat. Ils ne veulent pas du dialogue inclusif réclamé par la communauté internationale. Il est temps de dire, notamment à nos partenaires français, que vous avez un régime qui joue à un jeu de dupes avec vous.
Bien, monsieur. Paul Emery, rapidement, ensuite on écoute un auditeur.
Très rapidement, oui. Monsieur Ngo, qui est ici, je crois, président d'une association qui s'occupe de la situation des prisonniers. Moi, j'ai entendu aucun commentaire quand le président a libéré près de 300 anglophones.
J'ai dit merci d'ailleurs. Ouais, lui avais dit merci parce que
singulièrement. Mais non, c'est pas le sujet ici.
Il parlait de la crise.
Je vais vous montrer qu'il a une vue parcellaire de la situation.
Une fois que vous avez dit ça.
Non, mais attendez. J'étais en train de vous dire qu'un certain nombre d'outils ont été déployés pour circonscrire cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, j'en veux pour preuve déjà cette libération, plus de 300 prisonniers anglophones, ce qui veut dire que la main est réellement tendue.
Il y a 1500.
Non, s'il vous plaît, la main est réellement
tendue. Mais la crise ne baisse pas en intensité, c'est ce qu'on vous dit. Donc ça veut dire que ces outils ne fonctionnent pas jusqu'à présent.
Il y a une initiative qui a été prise aussi pour soulager l'ensemble de nos concitoyens.
C'est-à-dire ce fameux plan humanitaire.
Ce plan humanitaire est là. Donc, vous voyez
vous aurez du mal quand même à. Vous aurez du mal à dire aux experts des conflits qu'on peut déployer efficacement un plan humanitaire dans une zone de conflit, alors que le conflit n'a même pas encore baissé en intensité. C'est un peu compliqué. C'est comme vous parlez de l'opération de démobilisation et réinsertion, alors même qu'il n'y a même pas encore de situation post-conflit.
Je me souviens, vous m'aviez invité ici avec. La responsable africaine.
Oui, mais il y a quelques mois, vous avez invité, vous disiez qu'il n'y avait pas de crise dans les régions anglophones.
Elle m'a même parlé d'un conflit de quoi ? De faible ampleur. D'accord ?
Là, on est en grande intensité.
Ah non, ça n'a pas changé. C'est toujours la même situation.
On écoute un auditeur tout de suite. Monsieur Drissa qui nous appelle pour intervenir dans ce débat, pour nous apporter sa contribution forcément précieuse. Monsieur Drissa, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Laloupo. Déjà, je commencerai par vous féliciter déjà par rapport à vos capacités, enfin, vos qualités d'animation, en fait, à instaurer le débat et à pousser les personnes à donner quand même leur opinion par rapport aux divers sujets que vous abordez.
Merci beaucoup, vous êtes très aimable.
Voilà. Donc, effectivement, je vous appelais justement pour déjà parler d'un point très spécifique. Il s'agit déjà de la légitimité du président de la République, M. Paul Biya, et aussi, de façon générale, la légitimité des chefs d'État en Afrique, de façon générale. Mmh. Parce que si vous voyez que ces mouvements indépendantistes ont une certaine crédibilité aux yeux du monde entier, c'est quoi ? Ça pose la question fondamentale, est-ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ou actuellement sont légitimes ? Je ne parle pas de la légalité, parce qu'une fois qu'on statue par le Conseil constitutionnel sur la validation d'un président de la République, la question ne se pose pas. Mmh. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'ils sont légitimes ? J'entends par légitimité, je ne peux pas comprendre qu'un président qui dirige une nation pendant 40 ans, et aujourd'hui, ça se voit déjà par l'âge, par ses capacités, même par la santé, que il n'est pas en mesure de diriger un pays qui se dit avoir de l'avenir. Mmh. Parce que tout se pose là. Donc moi, j'aimerais que les présidents africains et ceux qui les suivent, parce c'est que moi, je n'en veux pas forcément à Paul Biya, je dis toute cette bande qui dit bon, Paul Biya est capable de ceci ou a fait cela, je veux qu'ils se remettent en cause, qu'ils se posent simplement la question si l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, je ne parle pas de leurs enfants biologiques, hein. Je parle de leurs enfants, de leurs petits-enfants, à l'échelle de la nation, ils doivent se poser ces questions, c'est-à-dire que ben, aujourd'hui, actuellement, est-ce qu'un président comme Paul Biya est capable d'apporter un avenir meilleur au peuple camerounais ? Et il est valable pour tous les présidents africains. Il faut qu'à un moment donné, nous nous posons ces questions-là. C'est parce qu'à partir de là que nous pouvons apporter les vraies réponses. Oui. Il faut qu'on comprenne que le monde nous regarde et qu'on est dans un monde, on n'est pas isolé. L'Afrique appartient à un ensemble qu'on appelle le monde. Mmh. Et les challenges sont à tous les niveaux, du point de vue militaire, du point de vue des technologies, du point de vue santé, moi je suis dans le domaine de la santé, du point de vue politique, les défis sont à tous les niveaux. Et donc les connaissances doivent être actualisées, les hommes aujourd'hui que les connaissances actuelles doivent prendre le pouvoir et apporter des réponses aux problèmes qui se posent actuellement à nous. Mmh, je pense qu'on doit voir les choses sous ce angle-là. Il faut qu'on arrête de faire du jeu politique, de dire ben, parce que M. Biya est au pouvoir, donc nous en mais profitons.
C'est une question diatribe là, parce qu'on ne comprend plus.
Laissez intervenir l'auditeur, s'il vous plaît. Allez-y, dis-moi. Allez-y.
Oui. Donc, j'ai dit, c'est pas parce que M. Biya est au pouvoir que nous profitons de ce pouvoir que nous allons donner tout, nous allons apporter tous les éléments pour justifier tous les actes qu'il pose. Non. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. C'est pas ce que nous gagnons, c'est ce que le pays va gagner, c'est ce que mes enfants vont gagner, c'est ce que toute la nation gagnera derrière. Je pense qu'il faut arriver à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup.
Et encore une fois, merci à vous pour les débats que vous instaurez. C'est assez enrichissant.
Merci beaucoup, Drissa. Merci infiniment. Oui. Restez avec nous. Oui, alors, on revient. Alors, l'intervention de Drissa m'amène quand même à évoquer, parce qu'il faut quand même revenir un peu sur l'histoire là où on l'a laissé il y a quelques mois, c'est-à-dire en octobre dernier, hein, au lendemain de cette présidentielle. Présidentielle contestée, hein, avec un challenger, Maurice Kamto, qui s'était déclaré vainqueur. Il a eu évidemment quelques ennuis judiciaires. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Bon, je pense que...
Hier, il a récupéré son passeport.
Il a récupéré son passeport ?
Hier.
Hier seulement. Hein.
Oui, hier seulement.
Voilà, d'accord. Donc, je veux dire, dans un contexte, disons, ordinaire, on se serait attendu à une crise post-électorale prolongée. Où en est-on aujourd'hui, je dirais, de ce qui ressemblait au lendemain de l'élection proclamée de Paul Biya à une crise post-électorale qui s'est éteinte tout doucement, finalement, Joël Didier Ngo.
Éteinte, il y a une forme de résignation aussi. Hein. Au bout d'un certain temps, je pense que les Camerounais n'attendent plus rien. C'est ça qui est grave. Et je complète là la réflexion de notre auditeur tout à l'heure, c'est qu'au bout de 36 ans, vous avez une extrême longévité au pouvoir qui est de l'usure, le peuple est fini par perdre toute forme d'espoir et en ce que c'est le personnel politique.
Il y a de la résignation.
Et il y a de la résignation.
Une grande fatigue.
Et il y a de la fatigue. Mmh. Je ne parle pour aucune chapelle, je ne plaide pour aucune chapelle. Mais ce qui s'est passé avec cette élection nous a montré combien, pour être tout à fait honnête, nous avions, au niveau de la société civile, nous étions en désaccord avec, y compris les partis d'opposition, sur le fait qu'ils aillent même à cette élection qui, pour nous, était pipé à l'avance. Hein. Le système est tellement verrouillé au Cameroun qu'aller à l'élection, c'est à la limite donner du crédit et de la crédibilité au hold-up qui aura lieu. C'est en fait ça. Et Maurice Kamto, au-delà des mérites qu'il a, c'est une éminence universitaire, est en réalité pris aujourd'hui dans ce piège-là parce que au moment où j'arrivais ici, j'ai entendu dire que son parti allait vers les législatives annoncées par M. Emery tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un système clérosé qui est complètement immobile. Et donc, lorsqu'on parle du Cameroun actuellement au niveau international, et même ceux qui connaissent ce pays, qui connaissent la valeur intrinsèque des Camerounais lorsque vous êtes à l'étranger, vous constatez qu'à l'intérieur, rien ne se passe, rien ne bouge, et même la population a acté que pendant 7 ans, en fait, il n'y aura plus grand-chose et on va attendre, on va attendre. Je ne sais pas ce que fera M. Kamto, ce que feront les autres, mais simplement, ce que nous a dit la crise post-électorale, c'est qu'une fois de plus, un homme est passé en force et essaie à nouveau de nous divertir avec le remaniement ministériel, et il y aura encore d'autres choses, alors que le fond du problème du Cameroun, c'est un problème de gouvernance.
Et votre propos confirme d'ailleurs le titre de ce dossier qui a été publié récemment par la revue politique africaine sur le Cameroun, dossier spécial qui était intitulé « Cameroun, l'État stationnaire ».
L'État stationnaire.
On marque une pause, on revient juste après pour la dernière partie de cette édition consacrée au Cameroun. À tout de suite.
De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Madoscopie du nouveau gouvernement camerounais, nos invités dans cette édition du grand débat, Paul-Éric Emery, chargé de la communication de la section France du RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun, et Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques, le CLDP. Vous vouliez réagir forcément, Paul-Éric Emery.
Oui,
je crois qu'on a pratiquement tout dit sur ce nouveau gouvernement, on ne peut pas en dire davantage, hein, parce que je crois qu'on a vidé la question évidemment du remaniement. On finira peut-être, je ne sais pas, en faisant, on va diriger des projecteurs sur les prochaines législatives et municipales. Qui vont se tenir cette année.
On va y venir.
On verra si ce n'est pas finalement un lot de consolation pour les opposants qui ont fini par jeter l'éponge après la crise de la présidentielle.
D'un mot tout de même sur ces questions de légalité et légitimité, je crois que les Camerounais, dans leur intelligence, ont tranché le débat.
Comment ça?
Ils ont répondu.
C'est-à-dire?
Le président Pierre Biya a prêté serment. Je pense que la question a été évoquée.
Pourquoi dites les Camerounais?
Drôle de conception de la légitimité.
30 millions de Camerounais.
De
30
millions de Camerounais ont de la légitimité, mon
ami. Non, mais s'il vous plaît, 30 millions de Camerounais ont donné leur avis sur la question. Et je crois que
Non,
jamais donné leur avis. Leur avis ne compte pas.
Sur l'arithmétique politique, là, maintenant. Parce que M. Joël Didier Ngo fait beaucoup d'analyses qui ressemblent plutôt à de la politique fiction.
Ah bon?
Nous faisons de la politique pratique. Parce qu'il y a une certaine arithmétique. Il y a une certaine arithmétique dont il faut tenir compte.
L'arithmétique, c'est alors quoi?
S'il vous plaît. Pour revenir sur, comment ça s'appelle, sur le candidat, M. Maurice Kamto, qui a mis en place, une théorie du village électoral.
C'est quoi ça?
Il s'est rendu compte lui-même que ça ne fait que 14%.
C'est quoi la théorie du village électoral?
Simplement pour vous dire que...
Il y a des concepts du RDPC qui nous échappent quand même.
S'il vous plaît.
Moi, le village électoral, sans vouloir vous couper, Paul Emery, c'est plutôt Paul Biya qui l'a mis. Moi, je viens du sud. Au sud, Paul Biya fait 100%.
Non, laissez-moi terminer.
100%. On nous l'annonce même avant qu'il y ait l'élection. 100%. Dans le moins de patelin...
Mais
il
si
fait
vous
ne
me laissez pas parler,
donc
vous n'allez pas comprendre.
C'est ça le village électoral, Paul Emery.
Si vous ne me laissez pas parler, vous n'allez pas comprendre.
Oui.
Parce que quand on regarde l'UDC,
on a compris,
qui va à la présidentielle et qui compte que sur un seul département, le Noun.
Non, on ne va pas refaire l'élection.
Non, mais c'est pour préciser.
On va pas refaire l'élection.
Si vous voulez rentrer dans ce jeu, je vous citerai dans tous les patelins de chez moi où Paul Biya fait 100%.
Non, mais laissez-moi terminer. Parce que
la matière
d'arithmétique électorale, ça fait un certain moment que nous sommes...
Enfin, vous voulez nous démontrer que Paul Biya a été élu régulièrement.
Vous faites du bourrage
sur l'ensemble du territoire.
Voilà, c'est pas de l'arithmétique électorale.
Actuellement, il y a 365 communes au Cameroun. Plus de 25 000 bureaux de vote. Le RDPC était présent sur les 25 000.
Et vous avez bien bourré.
Vous pouvez, s'il vous plaît. Vous pouvez pas venir vous présenter sur 10 000 bureaux de vote et penser que vous pouvez gagner cette élection. C'est impossible. Donc, les choses sont vraiment claires.
Vous actez le
verrouillage. C'est pour ça que je dis,
le verrouillage
et je reviens,
du système
et
électoral.
Je reviens. Vous savez, quand on parle de ces questions d'arithmétique politique, Monsieur Joël Didier Ngo, qui ne veut pas entendre ce discours,
non,
qui veut plutôt rester
écoute,
dans la fiction.
Je vous écoute, franchement, je vous écoute.
Il n'est pas dans la fiction.
Je vous écoute attentivement.
Il expose des faits.
L'ensemble des Camerounais comprennent parfaitement ce que
je dis. Non, les Camerounais ne comprennent
plus. Camerounais, parce que
vous n'écoutez même plus.
Vous parlez comme si, en fait, vous, votre parti, résumé à vous tout seul, tous les Camerounais. C'est quand même incroyable.
On essaie d'adresser l'ensemble de la population.
Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle. Vous avez toujours le réflexe du parti unique, j'ai l'impression.
Non, nous sommes en démocratie depuis 1990. Et on a parfaitement intégré ce sujet démocratique.
Bien sûr.
C'est ce qui nous donne une certaine avance
bien
sur
sûr,
les autres.
Bien sûr, bien sûr. Un mot sur ce prochain rendez-vous électoral, Joël Didier Ngo.
Oh, je laisse législative
municipale. Alors, on a appris récemment que l'opposition, ce sont comme ça des soubresauts un peu pathétiques, hein, a décidé de boycotter la reprise des inscriptions sur les listes électorales. Et Maurice Kanto, un candidat malheureux à la dernière présidentielle, envisage même de faire des propositions pour améliorer le code électoral. Du coup, on se demande finalement si ces législatives ne vont pas devenir une sorte de lot de consolation à cette opposition qui persiste et signe qui va des élections dont elle connaît déjà au départ, avant même l'élection, les résultats.
Oui, il y a un marché de dupes auquel M. Emery parlait des Camerounais. Les Camerounais n'y adhèrent plus, si ce soit, que ce soit du parti pour le parti au pouvoir ou en faveur de l'opposition. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, avant même d'aller à l'élection présidentielle, il y avait déjà ce débat sur comment on peut aller à une élection dont on sait qu'elle est verrouillé de partout.
C'est ça.
De partout. Le système électoral est verrouillé au Cameroun. Vous prenez le code électoral, il est verrouillé. Il vous a cité les circonscriptions. Toutes les circonscriptions sont tenues par le RDPC. Non, nous sommes dans un retour de parti unique, de fait. Donc, quand l'opposition dit qu'elle va boycotter.
Vous allez vite en besogne.
Vous permettez.
Sur les 180 députés, les 180 ne sont pas du RDPC.
La société civile avait un peu levé la voix, notamment l'OREDAC et les autres, en disant mais vous allez vers un verrouillage, vers un sauf-conduit qui ne mène nulle part. À la fin de l'élection, lorsque Paul Biya avait été élu à la soviétique à 71%, ils ont fait semblant de créer une sorte de rapport sur la révision du code électoral remis par un des candidats qu'il avait suscité de toutes pièces, remis au président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un marché de dupes. Ça ne trompe plus personne. C'est pourquoi je dis, nous sommes fatigués avec ça. Il faut avancer. Nous ne sommes même pas dans la polémique. Je ne suis pas là pour dire à M. Biya, vous n'avez aucune raison d'être là. S'il veut être là, qu'il reste au Cameroun, mais que le Cameroun avance. Et qu'on cesse de nous prendre pour de grands enfants qui sont là juste pour applaudir Paul Biya à manger lorsqu'il a nommé des ministres. Et nous sommes fatigués de ça. Il faut avancer. Et s'ils veulent vraiment, et là je parle aux opposants, s'ils veulent vraiment que ce pays participe à un jeu électoral transparent, non verrouillé, qu'ils le fassent dans des règles comme ça se fait ici ou comme ça se fait au Bénin ou dans les autres pays africains. Vous ne pouvez pas aller dans une élection dont vous savez que les jeux sont pipés dès le départ. Les cartes sont pipées dès le départ. Bien. C'est ça la problématique. Je parle de manière triviale pour que nos auditeurs comprennent ce qui se passe.
Je crois qu'ils vous comprennent très bien d'ailleurs. Ça vous conclure en une minute, pour les Emery.
Je vais donc préciser, c'est-à-dire que
conclure,
non seulement on ne change pas les règles du jeu au cours du match, et en plus de ça, l'ensemble des forces politiques présentes au pays adhèrent à l'ensemble des consultations électorales qui sont mises en place au pays.
Bon.
Cela veut dire que ce jeu est accepté par tous. Maintenant, faire de la politique n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Et je puis vous dire que les élections législatives et municipales sont encore plus difficiles que les présidentielles.
Ah bon ?
Et je peux vous garantir, non, sans trop me tromper, que ceux qui projettent déjà des sièges de députés ou alors de maires seront vraiment surpris sur le terrain, hein, parce que c'est pas évident du tout.
Ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez que les gens qui... C'est-à-dire qu'au niveau local, vous avez des élus qui sont présents au niveau local depuis un certain nombre d'années.
Ce sont les mêmes d'ailleurs, beaucoup de RDPC.
Je les connais
votre
pas.
Votre parti, oui.
Non. Le RDPC...
Il a verrouillé le système.
Non, il n'est pas verrouillé.
Mais bien sûr.
Encore une fois, le système n'est pas verrouillé.
Comme ne reconnaissez pas tout simplement.
Le RDPC participe aux élections comme tous les autres partis.
Vous êtes obligé de tenir un discours officiel.
Le RDPC se donne les moyens de participer honorablement.
C'est la langue de bois version RDPC.
Je vous parle de la réelle politique.
Franchement, ça nous avance.
Depuis que je suis là, je parle de
réelle politique. La RDPC, oui.
Tout simplement.
C'est ça.
Bien.
Bon, alors, c'est la fin de l'émission.
Merci encore une fois de nous avoir invités. J'espère qu'on a pu éclairer l'ensemble des auditeurs sur les questions.
Ils ont eu en tout cas une certaine idée, évidemment, du contexte politique camerounais.
Une idée réaliste.
Merci
beaucoup
et bonne année à tous.
Merci encore.
Merci à vous.
Bonne année,
au revoir. Merci Joël Didier Ngo. Merci beaucoup. Merci Paul-Éric Emery. Je m'appelle Didier Ngo. Vous êtes président du comité de libération des prisonniers politiques, le CLDP. D'ailleurs, nous ferons une émission prochainement sur la situation des prisonniers politiques, notamment au Cameroun. Hein. Paul-Éric Emery, merci d'être venu, chargé de la communication de la section France du RDPC. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, chargée de production, et à Hélène Bizio, qui a réalisé magistralement cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez encore et encore.
Suivez également le Grand Débat et toute l'actualité africaine sur le site www.africa1.com.